Bon, alors on revient à la Bible. Remarquez, vous avez vu que dans le chapitre historique, hein, toutes les grandes questions de géopolitique, on les a retrouvées à peu près, parce qu'elles sont finalement c'est les mêmes questions sur des millénaires. Hein, Alors là, on va quand même s'intéresser plus à la dimension littéraire, donc en fait à la question de l'interprétation. Alors, donc, on a vu le livre, chapitre 1, presque matériellement. Le cadre historique dans lequel il prend place, c'était le chapitre 2. Alors, un cadre historique qui est celui que la Bible veut bien nous donner, hein, mais qui est un peu corroboré par un certain nombre de documents extérieurs. Mais, donc, voilà. Et maintenant, on va voir en quoi ce livre est actuel. Hein. Et ça, c'est l'interprétation qui rend ces vieux papiers actuels. Donc, ça pose la question de l'herméneutique, comme on dit en langue savante. Et on cherchera à le résoudre, ce problème herméneutique. D'abord en précisant les données, deuxièmement en analysant les méthodes d'interprétation pour découvrir en quoi la Bible demeure une source de vie, de vie dans l'Église. Hein. Voilà. Parce qu'on pourrait se dire, bah, la Bible, ça servit à établir le dogme. Une fois qu'on a le dogme, on n'a plus besoin de la Bible. Eh bien, non. Alors, section première, la Bible et l'Église, le problème de l'interprétation. Alors, j'ai intitulé ça, comme je n'avais pas trop d'imagination, petite histoire de l'interprétation. Alors, tout d'abord, dans les temps anciens, et après, on verra dans les temps modernes. Alors, dans les temps anciens, alors, on se souvient que la proclamation du mystère de Jésus mort et ressuscité, hein, ce qu'on appelle le kérigme, kérigme en grec c'est un cri finalement, a précédé la production des livres chrétiens. On pense que le plus ancien c'est la première lettre aux Thessaloniciens qui date de 50, qu'on aurait peut-être des fragments d'évangiles, enfin déjà des traditions évangéliques mises par écrit, mais encore fragmentaires dans les décennies précédentes. Mais dès la Pentecôte, disons, que Jésus soit mort et ressuscité et qu'il est Dieu, ça commence à être annoncé, voyez, par les apôtres. Et qu'est-ce que c'est qu'au départ, ce kérigme, eh bien, c'est rien d'autre qu'une interprétation nouvelle des Écritures juives à la lumière, justement, de l'événement pascal, mort et résurrection. Et ça crève les yeux quand on regarde les actes des apôtres au début, les proclamations de Pierre, de Étienne, et des autres, comme Philippe et autres. Donc, les disciples avaient la conviction qu'il y avait un sens caché des Écritures, un sens, en fait, finalement, plus vrai, plus profond, donc plus vrai que celui que le texte livre ouvertement. Et ils étaient préparés à ça par déjà l'interprétation que les auteurs bibliques avaient fait et la tradition, on pourrait dire, vivante du judaïsme faisait à partir de ces textes sur l'attente messianique, sur vous voyez, un certain nombre de choses de ce genre. Et donc, en fait, l'Ancien Testament s'est constitué comme des couches successives d'interprétation d'un hypothétique fait primordial, avec des espérances vous voyez, eschatologiques qui apparaissent à certains moments dans l'interprétation du texte. Et ces interprétations, pas toutes, mais un certain nombre, se sédimentent pour enrichir le texte sacré. Donc, Nos premiers disciples, qu'est-ce qu'ils ont comme sous la main? Ils ont que ça, ils ont ces écritures-là. Et donc, ils vont considérer que ce qui se passe avec Jésus n'est rien d'autre que l'accomplissement des écritures. Donc, ce qui est par la suite devenu le Nouveau Testament renferme l'interprétation plénière et définitive de ce qu'il conviendra un moment d'appeler alors l'Ancien Testament. Donc je vous avais dit qu'il y a une sorte de basculement, parce que toutes les interprétations juives étaient des interprétations d'un fait primitif, de l'alliance de Dieu avec Abraham, et puis etc. Et donc on avait un regard qui était toujours rétrospectif. Et c'est à partir d'Abraham qu'on regardait vers l'avenir. Tandis que là, on comprend que le centre de gravité des Écritures n'est plus dans le passé, mais il est à travers ce passé, dans un présent, qui est celui que les disciples viennent de vivre et qui ouvre encore plus un avenir. Parce que finalement, l'eschatologie juive biblique, c'est la restauration du royaume. Hein. Il y a bien les pharisiens qui croient à la résurrection, mais les sadducéens n'y croient pas. En fait, finalement, on reste encore aux interprétations temporelles de l'eschatologie. Tandis qu'avec l'interprétation chrétienne, on va définitivement basculer dans une eschatologie spirituelle qui relativise tout le reste. Hein. Donc, et donc ce processus d'interprétation que font les disciples au lendemain de la Pentecôte, eh bien, trouve sa justification, comme je vous le disais, dans l'Ancien Testament lui-même, car il y avait dans le judaïsme eh bien, des écoles dont les maîtres ont commenté et interprété la Bible pour la rendre actuelle. Ce sont les Targoumim, enfin les Midrashim plus exactement, qui sont des textes actualisant les textes du passé pour les rendre, pour qu'ils soient un enseignement pour le temps qu'on vit présentement. Un bel exemple de ça, c'est le livre de la Sagesse, qui est tout un commentaire de la sortie d'Égypte, l'actualisant pour les gens de leur temps. Voilà. Alors, le Nouveau Testament, donc, qui prétend être l'interprétation définitive des Écritures juives, est lui-même susceptible d'interprétations différentes, pourvu, nous dit la Constitution sur la Révélation dans Vatican II, qu'on respecte l'analogie de la foi. Respecter l'analogie de la foi, ça veut dire que dans l'écriture, il peut y avoir des choses contradictoires ou difficiles à mettre ensemble. Un bel exemple de ça, on va le vivre dans la Semaine Sainte, c'est on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord sur la chronologie de la Semaine Sainte, selon les synoptiques et selon Saint Jean. Quand on parle d'analogie de la foi, c'est qu'il faut analyser le fragment à partir de l'ensemble. Voilà. Et c'est à partir de l'ensemble qui est globalement résumé dans le kérigme initial qu'on a la règle, l'instrument de mesure qui nous permet de juger de la conformité ou non d'un texte. Alors, ce qui explique que dans le canon, on ait pris des textes, on en ait rejeté d'autres. Et une fois qu'on a fermé le canon, si j'ose dire, eh bien, à l'intérieur des textes reçus, eh bien, il y a des passages qui peuvent être, entre guillemets, aberrants, et il faut les interpréter à partir de la figure qui se détache de l'ensemble, qui est la figure du Christ, comme fils de Dieu, rédempteur, sauveur, etc. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter des passages. Et Vous savez, on verra ça tout de suite avec les hérésies. Pourquoi il y a eu des hérésies? Il y a eu du fondamentalisme, c'est-à-dire les gens disaient, il y a tel verset qui dit ça, donc c'est ça qu'il faut dire. Mais comme il y a tel autre verset qui dit le contraire, ben, que faire? Par exemple, le Père et moi, nous sommes un, c'était l'évangile d'hier ou d'aujourd'hui, je ne sais plus. Le Père et moi, hein, le Père c'est Dieu, et moi, moi c'est moi, c'est le Christ. Donc, si on est un, ben, c'est que je suis Dieu. Et d'ailleurs, dans le même passage, il dit je suis, donc qui est vraiment le nom divin. Et puis, il y a d'autres passages, vous savez, où Jésus dit il n'est pas donné de connaître l'heure de la fin, etc. C'est donné qu'au Père, etc. Donc, il a l'impression de se mettre en retrait, en quelque sorte. Donc, les Ariens, ils vont faire la collection, l'inventaire de tous les textes qui disent que Jésus est en dessous du Père pour dire, vous voyez, c'est un deuxième Dieu, c'est un Dieu moins bien, donc c'est une sorte d'ange. Voilà. Et puis, les ecclésiastiques, comme on dit à l'époque, ils vont prendre tous les versets qui vont dans l'autre sens et ils vont dire, bah, voyez bien que en fait, le Christ est Dieu. Et alors, pourquoi leur interprétation l'a emporté? Eh bien, en fait, parce que, justement, c'était les ecclésiastiques, c'est-à-dire ceux qui... Parce que le Christ nous a donné un texte, mais il nous a donné aussi la grammaire pour le lire. Et la grammaire pour le lire, c'est le magistère. Donc, en fait, ce sont ses disciples qui vont perdurer à travers les sacrements, à travers l'épiscopat. Et donc, finalement, ceux qui vont avoir le dernier mot, ce n'est pas ceux qui feront les interprétations les plus brillantes, les plus, je ne sais quoi, les plus savantes, mais c'est ceux qui ont été chargés depuis le début, en fait, d'interpréter. Vous voyez, la fonction fondamentale de l'épiscopat, c'est non seulement de régir un peuple comme des pasteurs, mais c'est aussi de les enseigner, et de les enseigner à partir de la tradition initiale qui s'est sédimentée en quelques décennies dans ce livre qui est le Nouveau Testament, avec le rapport interne avec l'Ancien. Mais vous voyez qu'autrement, on serait à des querelles d'experts littéraires, en quelque sorte, des querelles d'érudits, qui disent maintenant bah c'est ceci, maintenant bah c'est cela. Et en fait, le Christ lui-même nous a donné l'instrument qui nous permet de pratiquer l'interprétation d'une manière équilibrée et juste. Et ça, c'est le magistère qui a pris conscience de sa mission progressivement, mais assez rapidement, hein, parce que dès le début du IIe siècle, vous voyez les évêques qui disent ah ben non, tel texte, c'est pas inspiré. Ah ben, tel texte, c'est inspiré. Puis ensuite, quand il y a les hérésies, etc., vous avez les Irénée de Lyon, vous avez Papias d'Hérapolis, ou tous ces gens-là, tous les pères qui disent ben non, on peut pas interpréter telle chose de telle manière. C'est pas conforme à la tradition de l'Église. Parce que eux, ils sont les garants de l'Église. Quand un Martion ou un type comme ça pense qu'il ne représente que lui. Tandis que quand Irénée lui répond, il représente l'Église, parce qu'il est pasteur de l'Église. Et il est dépositaire en même temps de la foi d'une communauté depuis l'origine. Les évêques ne sont pas simplement ceux qui imposent leur foi à une communauté, mais ils sont aussi le reflet intellectuel ou le reflet exprimé d'une foi, latente et réelle dans un peuple. Hein. Donc,
Oui, mais il faut qu'il soit inspiré de l'Esprit-Saint spécialement pour pouvoir dire c'est ça et pas autre chose.
Ah ben, de fait, ils le sont par l'institution divine de l'épiscopat, donc l'institution divine des douze. Et ensuite, la transmission du charisme par l'imposition des mains. Donc, on voit ça dans les actes dès le début. Par exemple, quand Paul et Barnabé sont détachés pour annoncer la foi, on prie sur eux en leur imposant les mains. Et donc, en fait, on leur confère le sacrement de l'épiscopat. à ce moment-là. Et à ce moment-là, Paul et Barnabé vont fonder des églises, les régies, etc. Alors, parler d'interprétation, vous voyez, du coup, c'est se situer au-delà du stade de l'explication de texte, c'est-à-dire de l'élucidation des points obscurs qu'on trouve, par exemple, dans les écrits de saint Paul. Quand saint Pierre dit, dans la deuxième lettre de saint Pierre, au chapitre 3, il parle des points obscurs qu'on trouve dans la doctrine de Paul. Donc, mais il dit du bien de saint Pierre, de Paul. Oui, des points noirs, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On aurait mieux fait de traduire par point obscur que point noir dans le truc de Heseman. Ah oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas... C'est certainement un abruti de communicant de l'éditeur qui a choisi ce nom-là. Donc on verra, c'est la mission de l'Église d'interpréter les Écritures pour en délivrer le sens à travers les temps et les cultures. Voilà. Donc on n'a jamais fini de faire l'inventaire de ce que l'Écriture nous enseigne. Alors évidemment, on ne va pas trouver une quatrième personne dans la Trinité, rassurez-vous, mais on n'a jamais fini d'actualiser, en effet, ce que l'Écriture nous dit. Par exemple, la question écologique, là, qu'on voit soulever depuis au moins l'époque de Jean-Paul II. Bon, c'est vrai qu'on ne s'était jamais trop posé la question avant, mais c'est vrai aussi que c'est aussi contenu dans l'Écriture, et aujourd'hui, où il y a un débat sur cette question... Bah, la Bible a quelque chose à nous dire, alors qu'avant, on n'avait jamais tellement regardé ce qu'elle avait à nous dire sur ce sujet-là, parce que la question ne se posait pas trop. Mais voyez, dès qu'une question se pose dans une culture donnée ou une époque donnée, eh bien, l'Écriture est susceptible de nous donner des points de... comment dire... des indications, à condition qu'elles soient... comment dire, commenté par ceux qui en ont la charge. Voilà. Alors, donc, pourquoi faut-il interpréter ? Parce que les textes ont des sens, peuvent avoir plusieurs interprétations successives ou simultanées, parce qu'ils ont une pluralité de sens. Alors, c'est justement ce qu'ont découvert les pères de l'Église, ces écrivains ecclésiastiques, pour la plupart évêques et saints des premiers siècles, hein, qu'on a étudiés auparavant. Il y a le sens apparemment obvi, le sens dit littéral. Alors, dans le sens littéral, il y a même le sens... historique à l'intérieur du sens littéral. Il y a la narration de l'histoire, puis il y a la lettre même qui peut prendre des distances avec l'histoire. Et puis il y a le sens un peu caché qu'on appelle le sens spirituel. Et dans les temps anciens, puisque on regarde un peu les temps anciens, donc en temps ancien, c'est le temps biblique. Antique et puis médiéval, on peut dire, on a scruté le sens littéral surtout pour dégager le sens spirituel. Le sens littéral en soi n'intéresse pas pour lui-même. Il est une sorte de support nécessaire et un des pères disait que c'est comme l'écorce qui cache et protège la sève. Donc le rôle de l'interprète, c'est de casser l'écorce pour accéder à la sève du sens spirituel. Et de toute manière, les anciens avaient quand même assez peu de moyens pour justement se livrer à un examen critique des textes, en vérifier la véracité. Et ils ont souvent fait preuve d'une confiance un peu naïve en vertu d'une doctrine encore assez peu nuancée de l'interprétation philologique, si on peut dire. Ils étaient capables de faire le grand écart en matière de typologie, d'allégorie, etc. Mais en revanche, l'analyse serrée du texte, c'était plus complexe, plus difficile. Alors, l'idée générale, hein, c'est que il n'y a pas encore vraiment de théologie de l'inspiration. L'auteur biblique n'a en fait finalement rien à dire en propre. Finalement, il écrit presque sous la dictée de Dieu. Hein. Il ne fait que transcrire ce que Dieu lui inspire. On a d'ailleurs une illustration assez saisissante de cette iconographique, de cette attitude dans l'inspiration de saint Matthieu, le tableau du Caravage que vous trouvez à Rome, à Saint-Louis, où vous avez vraiment la dictée. Hein. Vous avez Matthieu qui écrit avec sa plume et qui tend l'oreille pour retranscrire ce qu'il entend. Ça marcherait très bien, aussi bien avec le Coran. Hein. C'est la même vision, on pourrait dire, naïve de l'inspiration, qui fait justement toute l'économie, en quelque sorte, de la personnalité de celui qui est le médiateur de cette révélation. Donc, d'une certaine manière, il y a un désintérêt pour le sens littéral et pour tous les mécanismes qui vont avec sa production, c'est-à-dire la psychologie de l'auteur, le contexte historique, social et autres dans lequel il se trouve, etc. Et alors, on prend le texte comme un objet et on cherche à trouver en lui finalement ce qui peut nous enseigner. Alors, les Juifs le faisaient dans leur perspective, et les chrétiens vont le faire en essayant de trouver dans les Écritures, avant qu'ils produisent les leurs, de trouver ce qui est prophétique du Christ, hein, ce qui prophétise le Christ. Donc, ils vont... Vous voyez, un bel exemple de prophétie de la Trinité, c'est les premières lignes de la Genèse. On dit que Dieu créa par sa parole et qu'un vent soufflait sur le chaos initial. Alors, donc, Dieu, le Père, la parole, c'est le Verbe, et l'esprit ou le vent initial, c'est l'esprit. Enfin, voilà. Et donc, vous avez...
La démarche des Juifs qui se convertissent au catholicisme.
Comment ?
C'est un petit peu la démarche des Juifs qui se convertissent au catholicisme.
Ah oui, oui.
Ils procèdent intellectuellement.
C'est-à-dire qu'il est... Enfin, en tout cas, les premiers Juifs qui sont convertis au christianisme, ils avaient... Alors, les premiers, ils avaient la vie de Jésus d'un côté, que, par exemple, disait Étienne ou les premiers chrétiens, puis ils avaient leur connaissance des Écritures, puis ils se rendaient compte que les deux coïncidaient. Et que, d'une certaine manière, Jésus était vraiment le sceau des Écritures, l'accomplissement des Écritures. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de Juifs... Alors, pour les Juifs, je ne sais pas exactement, il y a des Juifs... Alors, vous savez, il y a les Juifs pas juifs, hein, enfin les Juifs pas pieux, et qui se convertissent directement comme un païen se convertirait au christianisme. Il y a les Juifs, au contraire, qui ont scruté les Écritures et qui, à un moment ou à un autre, découvrent dans le Christ ce qu'ils attendaient réellement. Et pour eux, le baptême est enfin une sorte d'accomplissement de l'attente dont ils découvrent qu'elle est... Voilà. Par exemple, Edith Stein, ça aurait été un peu son cheminement, d'autres, comme ça. Soudain, la personne de Jésus leur apparaît comme l'élément qui manquait, qui faisait tenir. Il y a, je crois que c'est, comment il s'appelle, l'auteur de l'action, Blondel. Voilà, Blondel qui prenait une belle image pour l'Ancien Testament. Il dit c'est un peu comme le Panthéon d'Agrippa au IVe siècle là à Rome. Vous avez une demi-sphère posée sur un cube, en gros. Et ce qui est caractéristique de la demi-sphère, c'est qu'elle tient par un grand anneau. Donc il y a les forces sont tenus par un anneau, en quelque sorte, de 12 mètres de diamètre, je ne sais plus, un truc comme ça, et qui permet l'éclairage, un grand œil en haut. Et alors, si vous voulez, tout converge vers quelque chose, mais qui n'y est pas. Vous voyez ? Comme tout l'Ancien Testament converge vers quelque chose que lui-même ne peut pas donner. Et justement, il y a cette ouverture qui va être précisément le christianisme, enfin la personne du Christ qui va être le...
Mais Liechtenstein était agnostique au moment de sa conversion.
Oui, oui, ah, c'est vrai, vous avez raison.
Par une protestante qui lui a donné...
Oui, 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 c'est ça. Oui. C'est Thérèse d'Avila qui l'a touché.
Oui, c'est
à
la vie,
oui, c'est la vie. Elle a dit oui. C'est la vérité en oui. Fermant le livre.
Oui, Thérèse d'Avila,
ah oui, oui, elle avait des origines juives d'ailleurs. Oui,
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 oui. Bien sûr.
Et c'est ça. Et alors, elle a appris alors, elle a demandé à se faire baptiser le lendemain, ou un truc comme ça. Le curé, qui s'appelait, qui a un nom d'une marque de montre, là, Sterling, un nom comme ça, lui a dit, bah, écoutez, non, il faut quand même apprendre le catéchisme. Elle apprend le catéchisme par cœur en une semaine. Elle se représente. Et puis donc, elle a eu un catéchuménat assez rapide. Mais bon, elle était assez brillante. Hein. Elle était, vous savez... Elle était l'assistante du professeur Husserl, au même niveau que Martin Heidegger, qui lui a continué.
Oui.
Alors, donc, voilà un petit peu l'idée de... Donc, l'idée dans les temps anciens, donc, vous voyez, biblique, antique et médiéval, c'est que le texte... Enfin, le texte de la Bible est un peu un tremplin pour l'esprit. Hein. La lettre est un tremplin pour l'esprit. On ne s'intéresse pas trop à la lettre, finalement. On ne vérifie pas trop si elle est véridique ou pas. Ce qui compte, c'est l'objet littéraire, vous voyez. Maintenant, et on prend un peu au pied de la lettre ce qu'il dit. Alors, avec des esprits un petit peu plus fins. Hein. Par exemple, Saint Jérôme, il met le doigt sur un certain nombre de contradictions, enfin bon, etc., etc. Vous avez Origène qui se rend compte qu'il y a plusieurs versions différentes en grec, donc il va faire ses exemples pour essayer de voir quelle est la variante la plus juste, hein, des choses comme ça. Je me suis rendu compte de ça dans les messes là, de la Passion. Tout simplement parce que le psaume 42 et le psaume 25, donc celui qui sert pour au début de la messe et celui qui sert pour se laver les mains, ils réapparaissaient dans les antiennes du missel, mais dans une autre version que celle qu'on a dans les versions des lectures sont différentes des versions qu'on a dans les rubriques pour le psaume. Au bas de l'autel et puis du moment où on se lave les mains. C'est-à-dire qu'en fait, dans le missel, vous avez deux versions différentes. Vous avez l'option 42 du début, puis après, par exemple, c'était hier ou avant-hier, vous le retrouvez comme Antienne d'Introit dans la messe, mais pas avec les mêmes mots en latin. Et même la même chose pour le lavabo, c'est pas la même traduction. Donc, vous voyez, même dans nos versions latines, on a même dans nos missels qu'on utilise depuis, voilà, eh bien, on n'a pas les mêmes versions. Mais déjà, c'est clair avec le Notre Père. Le Notre Père qui est qu'on récite habituellement, et le Notre Père qui est la Bible, dans le missel, ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes, la même traduction. La Vulgate de Saint Jérôme, c'est pas le texte qu'on a dans le missel. Donc, vous voyez, on a même dans le cadre assez étroit du missel traditionnel, on a des versions différentes de la Bible en latin.